Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Nous avons tous des pratiques, choses que nous faisons avec plus ou moins de savoir-faire, de matériel, de récurrence ou de secret. Eh bien, votre pratique à vous, c'est de collecter les pratiques. Pendant plusieurs mois, à l'aide d'un questionnaire, directement dans la rue, en vous appuyant sur le tissu des associations ou structures locales, vous avez demandé aux habitantes et habitants d'Aubervilliers de vous décrire une pratique, le degré de liberté qu'ils y trouvent, ce qui leur est nécessaire, et enfin, si elle ou il accepte de vous la transmettre. En venant si proche de chacun des gestes et des rituels, l'on atteint une dimension de portrait assez rare pour une ville. Une partition comme rythmique, un dessin des corps sur les 24 heures d'une journée. Ce travail donne lieu à la publication d'un très beau livre en collaboration avec Lou Forster, aux éditions des laboratoires d'Aubervilliers et aussi à une ouverture du projet du 7 au 10 mars au laboratoire d'Aubervilliers où on pourra voir un film, Le portrait de Marie Zemel, et une pièce dansée. Bonsoir à vous, Lenio Caclea.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là.
Merci de m'avoir invitée.
Et je signale, comme une sorte de filet de langage, la présence de Eve Dair. Si jamais vous switchiez, passiez dans la langue en anglais, elle serait là pour la traduire. Bonsoir à vous, Eve.
Bonsoir.
Comment s'appelle votre pratique ? Quand avez-vous commencé votre pratique et pourquoi ? Quand avez-vous arrêté votre pratique et pourquoi, si cela s'applique ? À quelle fréquence la pratiquez-vous ? À quel moment de la journée la pratiquez-vous ? Quels sont les accessoires et les outils nécessaires à votre pratique ? Quelles sont les conditions nécessaires à votre pratique ? Espace, température, partenaire, environnement, etc. Pouvez-vous décrire en détail votre pratique ? Quels sont les mouvements que vous faites en la pratiquant ? Cette pratique vous transforme-t-elle et comment ? Chloé et Ariane font la fête toutes les semaines. Leur pratique consiste à manger, boire, faire du feu et évoluer au rythme de la musique. Pour Chloé, tous les accessoires sont les bienvenus. Ariane préfère les grosses basses et les environnements naturels. Mais la chaleur et la bonne humeur leur sont indispensables. À un certain moment, on doit toutes et tous faire partie de la même fête. Leur pratique est une manière de faire communauté. Si je veux la partager, cela ne dépend que de moi. Pratique. La fête, accessoires, alcool, grosse basse.
Lenio Caclea, c'est une lecture dans un premier temps d'une partie du questionnaire ou formulaire que vous avez utilisé pour ce travail. Et ensuite, la première pratique qui est décrite, qui est écrite dans ce livre, dans cette publication. Alors peut-être commencer par questionner cette phrase. Je dis, nous avons tous des pratiques dans mon introduction. Est-ce que c'est une évidence qui a été évidente pour tout le monde lorsque vous êtes allé voir les gens en leur disant, vous avez forcément une pratique. Est-ce que c'était clair pour eux?
Pas du tout. La première réaction de la plupart de gens que j'ai rencontrés sur le territoire, c'était plutôt le contraire, de me dire que en fait ils n'en ont pas. Et je me retrouvais quand j'entendais ce constat-là, cette réaction-là, je me retrouvais aussi parce que c'était, ça faisait partie de la de mes pensées. Enfin, quand j'ai commencé à construire le projet, c'était aussi parce que j'observais dans ma vie une transformation de mes propres pratiques et je me voyais perdre certaines et éventuellement découvrir d'autres. Et je me suis dit, j'ai voulu en fait partager cette question avec d'autres. Et c'était justement comme ça que je proposer que j'ai commencé ce projet-là. Donc en effet, dans la rue à Aubervilliers, en rencontrant les habitants et les habitantes, la première réponse était j'en ai pas. c'est trop intime pour le partager. Et c'est à travers la rencontre, la discussion, une sorte de médiation en fait du formulaire qu'on arrivait que les habitants et les habitantes trouvaient une manière de répondre à ces questions-là, ou pas forcément exactement à ces questions-là, mais en tout cas trouver des mots pour décrire, pour faire une introspection de leur vie et arriver à conceptualiser ou en tout cas à formuler des pratiques qui en font partie de leur vie et de leur existence.
Il fallait commencer peut-être pour vous et pour les personnes avec qui vous travaillez par décrire ce que vous entendiez par pratique, peut-être par définir ce que vous entendiez par pratique, de sorte que votre médiation auprès des habitantes et des habitants soit claire. Alors vous dites, ça partait d'un constat qui était le mien, à savoir je perdais certaines de mes pratiques et j'en découvrais d'autres, parmi lesquelles peut-être, je sais pas, un travail en compagnie, peut-être aussi le fait de quitter un pays pour arriver dans un autre. Qu'est-ce qui bougeait à ce moment-là qui vous a emmené sur ce terrain d'interrogation ?
C'est tout à fait ce constat dont vous parlez. C'était d'abord de voir comment ma pratique professionnelle en tant que danseuse ou chorégraphe évoluait au cours des années. Voir en effet qu'il fallait... que j'ai dû abandonner certaines pratiques pour apprendre d'autres, pour survivre, pour continuer à travailler, pour découvrir d'autres chemins dans le travail. Et comme vous venez de dire, le fait de changer un pays, de changer la culture, une culture, une langue, commençant par la langue, déjà pratiquer une nouvelle langue, pouvoir s'exprimer dans le quotidien, partager des choses qui nous sont très propres, très personnelles, des émotions. C'était un très grand changement, un changement de disque dur. Donc, en effet, tous ces constats-là, toutes ces observations-là faisaient partie de mon parcours en tant que chorégraphe et m'ont amené à formuler ces projets-là.
Concrètement, comment ce travail a eu lieu ? Vous racontez que parfois il était difficile avec le froid, parce qu'il se trouve que l'hiver a été très froid, de travailler dans la rue, mais que la rue n'était pas seulement votre lieu, que vous appuyez aussi sur un maillage qui est existant, qui est à la fois des structures ou bien des associations. Ça donnait quel genre de journée ?
C'était des journées plutôt longues, plutôt pendant le jour et pas le soir, justement parce qu'il faisait très froid. Pas au début de semaine, plutôt fin de semaine, pour que les gens soient un peu plus décontractés, et éventuellement un peu plus disponibles. On a choisi nos bases sur la commune, donc on avait des bases que aussi j'ai découvert petit à petit pendant ces 8 mois de travail de terrain. Un café associatif qui s'appelle le Grand Brouillon, la mission locale, le point information jeunesse, Pige, un projet militant, la Fripouille.
C'est une collecte de vêtements.
C'est ça. Donc en gros, on arrivait, on s'installait et on commençait à on trouvait un petit coin où on peut une petite table, des chaises où on peut avoir nos formulaires avec nous et on sollicitait les personnes qu'on voyait qu'ils étaient et elles étaient disponibles et on essayait de leur parler des projets, de les faire intéresser, de voir s'ils étaient intéressés et de passer un temps avec eux pour entendre leurs réponses, parfois écrire à leur place, donner des exemples de pratiques, expliquer ce qui m'intéresse dans le projet, parler de mes propres pratiques aussi pour qu'ils puissent comprendre ce que je cherche. Et arriver à recueillir leurs réponses.
Est-ce que vous les sentiez, après ce premier moment qu'on a décrit, qui était parfois un moment de doute par rapport au fait qu'ils avaient ou non des pratiques, est-ce que vous les sentiez étonnés de ce qu'ils partageaient ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient par exemple étonnés de la dimension intime ou très proche de ce qu'ils mettaient en partage ?
Les réactions étaient très diverses. Il y avait en effet des personnes qui étaient ravies justement de partager quelque chose d'aussi intime et d'aussi constitutif de leur identité. D'autres qui hésitaient, qui préféraient rester dans l'anonymat, qui choisissaient l'anonymat, ou d'autres qui n'étaient pas intéressés par le projet du tout. Mais comme vous voyez, la collecte d'Aubervilliers est assez grande, finalement, et riche. Donc j'étais assez étonnée de découvrir que les habitants et les habitantes étaient plutôt intéressés que désintéressés.
Dans les descriptions ethnographiques, il relève la manière de nager, par exemple, le crawl des Indiens. Et finalement, les techniques du corps, c'est ça, au fond. C'est comment, dans les groupes donnés, et souvent ce sont des ensembles, on a façon de faire agir son corps. Et ceci est donné par la culture. La gestuelle, si vous voulez, et toute l'école de la gestuelle vient de là. L'étude de la gestuelle vient de cet article sur les techniques du corps. Je vois par exemple, lorsque vous épluchez une orange ou une pomme de terre, le coupant de la lame, vous le poussez vers le pouce. Ma mère n'a jamais pu s'y faire, elle fait toujours en sens inverse, comme la plupart des Asiatiques. Et pourtant, elle a vécu longuement en France. Vous remarquerez d'ailleurs, si vous avez des amis d'origine asiatique, sauf les tout jeunes, ceux qui sont venus tout jeunes en France, ils ont pris la technique du corps des Européens dans leur façon de couper. Mais aller dans un restaurant vietnamien ou chinois et jeter un coup d'œil vers la cuisine, et vous verrez la façon d'éplucher, totalement différente. La manière d'agir avec son corps est différente, est influencée par la culture.
C'est une archive de Georges Condominas qui parle de Marcel Mauss, c'est une archive de 1982 qui parle des techniques du corps. Vous dites, Lenio Caclega, que certaines lectures ont été très fondamentales dans le travail que vous avez engagé à Aubervilliers. Lesquelles et pourquoi ?
Pas surtout les techniques du corps de Marcel Mauss. Il relève plusieurs points. Le plus intéressant pour moi et pour ce projet-là, c'était vraiment le centre du projet, c'était la question de la transmission.
Qui est à la fin de chacun des questionnaires formulaires. Hein. Est-ce que vous êtes prête à me transmettre cette pratique ?
C'est ça. Et l'action d'aller interviewer des gens crée déjà un échange. Donc le début du projet, c'est l'échange. Puis le fait de recueillir les réponses et de le composer, de les éditer en court portrait, créer des partitions qui peuvent, à travers les pages de ces livres, à travers les livres, être distribuées, circulées. Donc les livres est un objet de transmission. Et c'est un objet de transmission pour les lecteurs et les lectrices, mais c'était aussi l'objet de transmission que j'ai utilisé personnellement pour mettre en scène, chorégraphier, Portrait choisi, la pièce chorégraphique qui est présentée au laboratoire. Donc la question pour moi, comme je ne suis pas sociologue ni anthropologue, n'était pas tellement d'écrire un territoire à travers les pratiques des habitants, mais c'était de me mettre à la place de pouvoir les incorporer. Pas la totalité, parce que ce serait beaucoup trop ambitieux, presque pas impossible, mais en tout cas de me mettre à la place d'essayer. D'apprendre au moins une partie. Et que, pour qu'on puisse voir que ces techniques pratiques-là, déjà, elles sont individuées, puis elles sont incorporées, et puis elles nous contaminent. Ou elles peuvent nous contaminer. Et que ces pratiques-là, comme des images, comme des mots, les gestes aussi circulent. Et que c'est à travers les pièces de danse qu'on peut aussi les faire circuler.
Ce qu'on entend dans cette archive de Georges Condominas, c'est aussi l'ambiance culturelle qui contamine les techniques du corps. Alors, ce qui quand même devient intéressant lorsque on se penche sur le territoire d'Aubervilliers, c'est que cet ambiance culturelle, il est très varié, il est très divers, il est très emmaillé. Il n'est pas seulement la composition d'être venu de plein d'endroits dans le monde ou alors avec des origines de plein d'endroits dans le monde, il est aussi un territoire donné qui est Aubervilliers et qui a aussi une identité et une histoire. Comment est-ce que cette dimension socio-culturelle a interagi avec vos réflexions ?
D'abord la mixité du territoire, c'était une on voit à travers les pages du livre, on voit que il y a beaucoup de communautés qui ne sont pas représentées. On peut pas parler de représentation, mais on voit la variété et la diversité des cultures, des ethnies représentées. Et puis ce qui était très flagrant à Aubervilliers, c'était le niveau d'engagement des habitants et des habitantes. Aubervilliers, c'est une ville communiste, et je voyais très bien, et on voit ça à travers les réponses, que la plupart des habitants et des habitantes sont très fiers du fait que la vie publique repose sur leurs mains. Donc, on a un éventail assez large des pratiques militantes, comme écrire des lettres pour améliorer l'école publique, comme les restos de cœur, enfin, des pratiques militantes ou de bénévoles.
Qui étaient décrites par les habitantes et les habitants.
Oui, et qui étaient la première réponse, qui étaient les pratiques qui ont été choisies par les habitantes. Donc, elles et eux, elles ont choisi de se représenter à travers cette pratique-là. Ça veut dire que c'était une pratique extrêmement constitutive qui leur était très chère et à travers laquelle ils s'identifiaient, ils se voyaient, ils se réalisaient peut-être, si on peut dire ça.
Et aussi, si on se place du point de vue de la transmission, puisqu'ils étaient tout à fait conscients de l'exercice qui était en train d'avoir lieu, c'était que c'était aussi une image ou une identité qu'ils avaient envie de transmettre, celle d'habitants. Absolument engagés dans la vie de leur cité et ayant des pratiques pour participer à cette vie-là. Est-ce que certaines d'entre elles faisaient écho justement à un pays qu'ils avaient quitté ou à un pays que leurs parents avaient quitté ou, je ne sais pas, à un pays d'où venaient leurs arrière-grands-parents ? Enfin, cette idée culturelle était-elle présente ?
Si, on retrouve ça dans plusieurs portraits. Sur des portraits dont la pratique c'est de parler une autre langue que le français par exemple et qu'on découvre à travers des portraits de ceux qui parlent le Lingala ou le Sinanké, qu'il s'agit d'une pratique qu'ils peuvent exercer en dehors du temps de travail, plutôt en famille ou plutôt dans un cycle d'amis. Donc on voit les spécificités, le cadre aussi, on voit aussi comment elles se permettent d'exercer ce langage-là. Ou d'autres où en effet on voit dans la pratique par exemple de la cuisine comme vous venez de mentionner, on voit justement des transmissions qui datent des générations de la grand-mère et qui viennent d'autres pays que celui que la France.
Puisque la question de la transmission est vraiment celle qui clôt le questionnaire formulaire, est-ce que vous avez plutôt rencontré des personnes qui voulaient vous transmettre la pratique ou plus couramment des personnes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas ?
La plupart des réponses étaient positives, donc la plupart des gens voulaient bien me la transmettre et même ils rajoutaient souvent avec plaisir. Néanmoins, il y a eu quand même un certain nombre de pratiques qu'on appelle donc dans le livre intransmissibles, dont le sujet, enfin les personnes ont décidé que soit c'était justement des pratiques beaucoup trop intimes ou beaucoup trop liées à leur idiosyncrasie. À leur identité. Ils étaient beaucoup trop attachés à ça pour vouloir le transmettre. Ou alors les pratiques étaient beaucoup trop intimes, justement, pour choisir la transmission. Il y avait aussi certains cas où les praticiennes ou les praticiens pensaient qu'ils n'étaient pas capables de transmettre leur pratique par manque de connaissances ou d'expérience.
Vous pensez à quoi par exemple ?
Par exemple l'escalade. Je me rappelle d'une personne qui pratique l'escalade pour vaincre sa peur de hauteur et ne se sent pas assez prête pour tenter l'expérience avec moi. Thank you. Par les temps qui courent, Marie Richaud.
On rêve différemment dans les différentes villes. Donc ce serait un peu du même ordre. C'est-à-dire les ingrédients qui vont être ceux avec lesquels on compose à Venise sont évidemment pas les mêmes que ceux avec lesquels on compose à Aubervilliers. Après, il y a des hauteurs, il y a des trous, il y a des étroitesses, des largeurs, des visages, des chiens. Tout ce qui va composer les éléments d'une ville, il y a une ville générique quelque part. Et c'est celle-là avec laquelle on travaille, je crois. C'est vraiment composé à partir des dynamiques d'une ville. Et nous, on doit suivre ces dynamiques, se laisser porter. Et donc, les hauteurs à New York vont être folles. On n'est pas le même corps dans du large, on n'est pas le même corps dans du noir. Et la ville, elle permet, dans une superficie très, très étroite, de passer d'une atmosphère à l'autre. Et ça, ça a été un des retours aussi. C'est pas possible qu'il y ait autant d'espace. Et je crois aussi parce que ça déroule les espaces qu'on contient dans nos mémoires. En fait, on contient tellement d'espace. Et donc, de faire jouer comme ça, cette espèce de... toutes les villes qu'on a déjà vues, avec ces bascules permanentes d'atmosphère à Aubervilliers, là, d'un coup, ça déroule une multitude de possibilités d'espace.
C'est la voix de Myriam Lefkowitz, qui est artiste et qui avait, elle aussi, été en résidence au laboratoire d'Aubervilliers et avait initié des balades guidées par un ou une danseuse, danseur, les yeux fermés à l'intérieur du territoire de la ville pendant, ça dépendait des gens, une demi-heure, 45 minutes, 50 minutes. Elle parle, Myriam Lefkowitz, de la manière dont parcourir l'espace de la ville d'Aubervilliers réveille d'autres espaces en soi. Est-ce que vous avez rencontré quelque chose d'un peu similaire, Lenio Caclea, en récoltant toutes ces pratiques? Est-ce qu'elles ont révélé des pratiques que vous ne soupçonniez pas en vous, que vous n'aviez pas reconnues comme telles?
Je dirais que la plupart des réponses que j'ai recueillies des pratiques étaient de pratiques que je ne connaissais pas avant. Peut-être je connaissais le football en tant que pratique, mais pas la manière dont il est joué par ces praticiens-là. Donc, justement, ce qui m'intéressait, c'était pas ce qui m'intéressait dans l'entretien avec les interviewés, c'était pas tellement qu'ils m'expliquent ce que c'est le football, mais comment eux ils jouent et pourquoi. Et du coup, en effet, presque, je dirais, chaque rencontre, chaque entretien, chaque réponse révélait et me faisait imaginer des espaces intimes, intérieurs ou domestiques, ou même des espaces publics que je n'avais pas rencontrés auparavant.
Il y a quand même quelque chose qui s'inscrit très fort dans la ville d'Aubervilliers. Être en résidence en tant qu'artiste dans une ville, c'est quelque chose de très puissant, surtout quand ça a lieu pendant plusieurs mois. Est-ce que vous avez trouvé que les pratiques que vous recueillez auprès des habitantes et des habitants étaient relatives à cet espace? Par exemple, est-ce qu'elles étaient très urbaines? Est-ce qu'elles étaient très liées au fait que toutes ces personnes vivent en ville? Et quelle ville?
Sans doute, c'était une découverte justement par surtout par les pratiques militantes. Dans la rencontre avec les habitants et les habitantes, il y avait évidemment une partie. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient ce que je cherche. Ils voulaient entendre des exemples. Dans les cas où je donnais des exemples, dans les cas où l'entretien s'est passé en forme de discussion. Évidemment que j'exprimais mes intérêts. Et j'exprimais par exemple le fait que les pratiques de survie m'intéressaient plus particulièrement. Les pratiques intimes aussi. Ce que je cherchais à savoir, c'était justement pour sortir un tout petit peu de cette image des pratiques sportives. C'est un peu la première image qu'on a quand on entend ce terme-là, pratique. Justement pour sortir de ça.
Non seulement quand on entend pratique, mais surtout quand on entend territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que très très souvent, lorsqu'on cartographie les gestes et les pratiques à Aubervilliers ou dans les zones environnantes, il y a beaucoup la pratique sportive qui revient. Alors c'est du sûr. Coup, sortir de ça vous amenait à d'autres endroits.
Exactement. Et je cherchais très souvent, enfin en tout cas, je répondais en disant que quelles sont les pratiques qui vous permettent de survivre. Et on a justement, je me rappelle très bien d'une réponse qui m'avait vraiment touchée. Une personne qui m'avait répondu qu'il pratique l'intransigeance.
Comment?
Par le biais des cardio rudimentaires, je me rappelle pas les détails en se mettant toujours au même niveau que les gens, jamais au-dessus, en luttant pour un monde meilleur, sans hypocrisie de la part des médecins français, face à un ensemble c'est une attitude de vie, c'est une posture, c'est un rapport au monde, en fait, un rapport à soi et un rapport au monde. Donc j'ai cherché à... Je ne suis pas arrivée avec une définition de ce que c'est la pratique. Cela ne m'intéressait pas. Je pensais pas que c'était ma place non plus. J'ai cherché à interroger ce que c'est une pratique à travers les réponses de ceux qui ont voulu jouer les jeux avec moi.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans les pratiques de survie? Et pourquoi à ce moment-là?
C'est une très bonne question. Ce qui m'intéresse parce que ça m'intéresse la pratique en tant que mode d'existence, en tant que forme de vie, pas en forme d'activité. On connaît la chorégraphie du football, on connaît les gestes qu'on fait quand on fait la cuisine, plus ou moins. Évidemment qu'ils ont voilà les spécificités et tout, mais ce qui m'intéresse, c'est comment le pratique nous organise, comment il modifie, comment ils font partie de notre identité, comment elle nous conditionne, comment elle nous oppresse. Je cherchais à trouver cette tension entre pratique et choix des pratiques, et protocole de la pratique.
Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont par exemple répondu qu'il ou elle avait une pratique, qu'elle soit quotidienne ou pas, récurrente, qui était une pratique qui leur était imposée par l'extérieur?
Il y en a pas mal. Surtout pour ceux qui parlent de pratiques qui sont liées à leur métier et aux espaces de travail. Ce sont des pratiques dans lesquelles, ce sont des enchaînements, des gestes dans lesquels ils se sentent pas forcément libres. Après, il y a plus précisément la question de la prière. Il y a donc le portrait collectif de la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu qu'ils pratiquaient ça très intensément.
Quand le mot pratique arrive, il y a aussi l'idée de la... On a parlé de la pratique sportive, mais il y a la pratique religieuse.
Tout à fait. Et c'était justement un côté qui m'intéressait. Et évidemment, on découvre, à travers le portrait de la prière, on découvre une autre partie de la prière qui est la partie des ablutions. Donc les ablutions sont un protocole gestuel qui est imposé et très méticuleusement chorégraphié.
Alors là, on parle d'une prière qui est aussi un peu particulière, puisque oui. Si vous parlez de la prière et des ablutions, vous parlez de la prière musulmane.
Donc...
Pourquoi ça vous intéressait?
Elle est apparemment propre du territoire. Je m'y attendais pas. Je dois avouer, comme je ne pratique pas la religion, il n'existait pas dans mon cadre de vie. J'étais très étonnée dans la manière dont les interviews ont voulu partager ça avec moi et elles se sont beaucoup beaucoup investies aux réponses qu'elles ont données. Ce sont des réponses très détaillées. ce qui m'intéressait, donc le portrait de la prière est un portrait qui a été choisi pour portrait choisi. Donc il fait partie du spectacle. Il ne faudrait pas que j'en dise trop, mais ce qui m'intéressait là, c'était d'éprouver peut-être un écart culturel et de aussi de découvrir à travers mon propre corps quelque chose que je n'avais vraiment jamais pratiqué, les ablutions. Dans ce sens-là, on peut vraiment parler d'une découverte.
Je fais l'hypothèse que tout art, quelle que soit sa discipline, si je peux dire, comporte un danser fondamental. Et au fond, tout à l'heure, quelqu'un parlait autour de cette table parlait de rythme. Je crois qu'en effet, ce qui détermine une esthétique et un art en général, c'est la production originaire d'un rythme. Et ça, c'est le geste qu'il produit.
Pour moi, c'est plutôt le geste de zoomer sur des choses, c'est-à-dire de porter à un moment une attention extrême, exacerbée sur des choses qu'a priori on ne remarque pas ou à peine. Et dans le travail qu'on fait dans le spectacle, par exemple, on a pris un babil d'enfant, des choses très très courantes et très banales, et on a passé, je sais pas, peut-être 2 semaines à essayer de le reconstituer très très exactement. Et c'est simplement en faisant ce travail-là, vraiment de grossissement et d'attention qu'on arrive à remarquer ce qu'il peut y avoir d'inventif ou de créatif dans les choses les plus immédiates.
On entend ici 2 voix, une archive de Michel Guérin qui avait écrit Philosophie du geste, et ensuite Joris Lacoste qui est dramaturge, homme de théâtre notamment, qui a travaillé sur ce très grand projet de l'Encyclopédie de la Parole et qui travaille encore. Les deux utilisent le mot du geste que vous n'utilisez pas du tout. Léno Cacléa, pourquoi ?
Bonne question. Donc les gestes quotidiens, en tant que terrain de recherche, disons. C'était quelque chose qui a été très, très essentiel, très central dans le travail chorégraphique des années 60-70, qui a donné plein de formes, dont enfin, justement la forme minimaliste. Je voulais sortir... Je ne voulais pas rendre le geste l'objet central du chorégraphique. Cela me semble une évidence, en fait. Je voulais rendre l'objet de ce projet-là, donc ne pas les gestes. C'est la ville, c'est l'espace public, c'est l'espace intime. C'est la relation au corps, la relation aux autres. C'est comment les gestes nous transforment. Et comment... les gestes sont conduits et chorégraphiés par des conditions de vie, par une idéologie, par une religion, par la vie publique, par une société. Donc c'est à travers ce prisme-là que je m'intéresse aux gestes.
Uniquement dans la forme presque d'action qu'il peut avoir sur la forme de l'existence. C'est-à-dire que le geste n'est pas regardé en tant que tel, mais comment il transforme la vie, ou comment il transforme.
Comment il transforme et comment les gestes sont le résultat d'autres opérations, en fait. Font partie d'un cadre. Nous sommes chorégraphiés par la manière dont on vit. Et la manière dont on vit et nos identités sont aussi définies par des cadres, par la société, disons. Et surtout quand il s'agit de pratiques quotidiennes et très très populaires. Enfin, je ne trouvais aucun intérêt à expliquer ou re-expliquer ce que c'est le football. On sait ce que c'est le football. On sait comment ça se joue, mais comment ça se joue à Aubervilliers par ceux qui répondent à ce moment-là. Enfin, aujourd'hui.
Et alors, comment ça se joue à Aubervilliers par ceux qui répondent aujourd'hui?
Bah, par par plein de personnes, surtout des garçons, en tout cas...
Dans ceux que vous avez rencontrés.
Voilà.
Ils jouent où ?
Sur des terrains. Ils ne parlent pas vraiment, ils ne parlent pas du lieu, mais je me rappelle plus précisément de... Je me rappelle plus précisément de la réponse d'un jeune adolescent, je pense, qui était afghan, qui est afghan, et qui donc il jouait chez lui. Et puis en arrivant en France, il disait qu'il ne peut plus jouer, il ne fait maintenant que dormir et manger, et que il ne joue plus car il n'a plus avec qui jouer. Donc voilà, ça décrit une condition de vie, en fait. Donc ça parle plus du football. Donc c'était justement... j'étais évidemment intéressée par les pratiques, mais c'était aussi une ruse pour pouvoir parler d'autre chose.
Quand Joris Lacoste dit « en zoomant, ça me permet... » Alors lui, dans le cadre du langage, ça me permet d'aller trouver des endroits d'inventivité qui ne sont pas soupçonnés. Vous avez trouvé, dans les pratiques récoltées, l'Ennio Caglia, de l'inventivité chez les habitantes et chez les habitants d'Aubervilliers. Et quelle forme ça prenait, quelle sorte d'inventivité?
Beaucoup. À tous les niveaux. Enfin, déjà, il y a beaucoup de pratiques originales, comme la cérémonie du coquillage, ce que je viens de mentionner tout à l'heure, l'intransigeance, le fait de photographier des canettes abandonnées dans la rue, car les canettes n'ont pas le droit à l'image. Des pratiques comme vivre le vertige sans basculer dans les vides, donc vraiment une manière de... d'accepter son propre corps, des pratiques des rêveries, d'auto-hypnose, des visualisations mentales, la crépaillère, donc des pratiques très spécifiques des cuisines.
Finalement, est-ce que, en fait, quand je dis étonné par l'inventivité, est-ce que c'est pas une banalité que de dire ça? En réalité, quand on place la loupe dont parle Joris Lacoste, on ne trouve pas nécessairement dans chacun des êtres humains des pratiques individuelles qui sont forcément une forme d'invention de son corps, de son quotidien, de son rapport à l'existence. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui n'inventent pas leur rapport à l'existence et leur propre pratique de vie d'une certaine manière. Vous croyez que ça existe des personnes qui n'ont pas de pratique de vie, de pratique de corps?
Je pense qu'on en a... Évidemment, nous en avons tous et toutes. Trouver de l'originalité ou de l'inventivité m'intéressait, découvrir de la répétition m'intéressait aussi. Et je pense que à travers les pages de ce livre-là, on découvre le deux. On voit à la fois l'effort, la volonté, le désir des gens de construire leur quotidien et que ce quotidien-là leur représente.
Et on leur appartiennent aussi.
Leur appartiennent, voilà. Et on voit aussi des récurrences, des répétitions, des conditionnements. On voit aussi des formes, on pourrait même parler d'assujettissement.
Fofana, Noël et Demja pratiquent la boxe. Fofana a commencé à l'âge de 12 ans. Demja et Noël à l'âge de 8 ans. Ils pratiquent deux ou trois fois par semaine, entre 17h30 et 21h. Noël a dû arrêter pendant 4 ans quand il était en prison pour braquage. Depuis qu'il est sorti, il pratique la boxe, comme si c'était son métier. Il utilise des bandages de poings, des gants, des casques, des protège-dents, et pratique le jeu de jambes, le souffle, le cardio et le mental. Fofana a découvert la boxe grâce à son ami Devin en CM2. Il partage sa passion avec Daniel, Nazim, Samir, Christian et Kylian. Noël a commencé à boxer dans le 54, à Nancy. Son oncle Noël, alias Poupine, d'origine yéniche, le volait à ses parents pour lui apprendre à boxer. Il voulait lui ressembler. Fofana et Demja disent que la boxe leur évite de s'énerver. Pour Noël, c'est une drogue. Il faut être méchant et haineux, donner des coups de poing dans tous les sens. La boxe se pratique là où il y a de la rage et de la souffrance. Il se rappelle avoir gagné contre Pascal au championnat de France, compté en 1000 lourds par KO au 3e round. C'était un grand combat où Noël a su surmonter ses capacités malgré les difficultés physiques. S'il fallait recommencer le combat, il le ferait, comme un arbre fruitier qui, tous les ans, fait des fruits sucrés. Il se sent libre quand il pratique. La boxe lui donne envie de tuer. Fofana, Demja et Noël accordent respectivement 7, 10 et 100 à leur pratique, qu'ils seraient prêts à me transmettre si je veux. Pratique. La boxe, accessoires, bandage de poing, gants, casque, protège-dents.
Romain de Bec-de-Lièvre lit une des pratiques que vous reportez dans le livre « Les Nyokakléa » et c'est un portrait qui est collectif, celui-ci. Alors comment avez-vous décidé, vous parliez tout à l'heure de récurrence ou de répétition, que certains des portraits allaient vraiment être au plus près des êtres qui vous les transmettaient, ces pratiques, et puis d'autres allaient englober tous les prénoms qu'on vient d'entendre?
En fait, l'opération qu'on a fait avec Lou Forster était assez simple. Il y avait des gens qui partageaient, qui se connaissaient pas, mais qui partageaient la même pratique, dont la boxe. Dans ces cas-là, cela nous a semblé logique de les rassembler dans un seul portrait.
Mais sauf que vous disiez tout à l'heure que ce qui vous intéresse, c'est pas la boxe, c'est la manière dont chacun des êtres la pratique, cette boxe.
Tout à fait, mais à travers les spécificités et les manières dont chaque pratique a été individuée est apparente dans les pratiques collectives. Parce qu'on a essayé de garder justement les traits personnels de chaque réponse. Et on voit bien dans le portrait que vient de lire Romain que Noël pratique différemment que Damien.
Ça, c'était pour les portraits collectifs, donc vous avez toujours fonctionné de cette manière-là?
Oui, pour tous les portraits.
C'est-à-dire, vous vous rendiez compte, à travers les entretiens, que des personnes ne se connaissant pas avaient la même pratique, et donc vous les rassembliez?
On a rassemblé, il y a, je pense, une quinzaine de portraits collectifs dans les livres, donc on a rassemblé tous ceux qui faisaient la boxe, tous ceux qui faisaient le foot, le ménage, la cuisine, le bénévolat, la fête, les arts martiaux, le yoga, la danse, évidemment le vélo, la course, les voyages, la photographie. Évidemment avec les pratiques qui se pratiquent en groupe. Il y a des pratiques individuelles qui se sont rassemblées en un seul portrait et des pratiques aussi collectives qui se sont rassemblées dans un portrait collectif. Voilà, il y a les deux dans le livre.
Ce qu'on entendait aussi dans le portrait que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre, c'est, je trouve, des êtres qui souvent ne sont pas dans les livres ou en tout cas n'existent pas dans la sphère publique comme des personnes qui ont des spécificités, qui ont leur individualité, qui peuvent parler de leur vie, leur existence, ce qu'ils font. Je trouve que quand même ce livre, quand on le parcourt, il y a une sorte de phénomène d'apparition. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve, beaucoup d'êtres qui sont sous une sorte de chape de plomb médiatique, qui ne sont pas vus et pas entendus, et d'un seul coup, ils apparaissent au travers des pratiques. Est-ce que c'était... Tout à l'heure, vous disiez la pratique, c'était un prétexte. Est-ce que c'était l'un des... But?
Évidemment. ça m'intéressait de rendre un portrait d'Aubervilliers à travers ces pratiques invisibles. Surtout justement ces pratiques qui se sont pratiquées, qui sont pratiquées dans un coin, derrière des portes, dans la solitude,
ou des personnes aussi invisibilisées pour d'autres raisons, qui sont des raisons, je sais pas, parfois de pauvreté, des raisons de non-inscription dans un tissu politique, des raisons, pourquoi pas, je sais pas, de pas avoir de papier, des raisons de...
Évidemment.
Il y a aussi des personnes qui sont invisibles pour des raisons sociétales très très fortes.
Évidemment.
Et de survie aussi.
Évidemment, et je suis allée à... Enfin, le travail des territoires faisait partie justement de... C'était un désir que j'avais pendant que je faisais le travail des territoires. C'était justement d'aller rencontrer, de ne pas emprunter le chemin, aller rencontrer des gens là où, enfin, en dehors justement des associations, en dehors des chemins qu'on connaît.
Il se trouve que ce portrait collectif, vous l'avez incorporé et qu'il intervient. Alors vous le disiez, faut pas tout dévoiler, mais il existe dans votre corps, dans la pièce Portrait choisi. Comment s'est passé ce travail qui arrive, j'imagine, après, et qui est de décider, vous, Lenio Caclea, de faire vôtre, je sais pas si on peut dire les choses de cette manière-là, des pratiques qui vous ont été transmises pendant ces mois?
Pour Portrait choisi, la pièce chorégraphique, je choisis six pratiques qui sont donc mises en scène, pendant lesquelles j'utilise plusieurs opérations chorégraphiques. Donc nous sommes vraiment dans une traduction corporelle de ce qu'on vient de lire. Je suis pas dans un rapport littéral par rapport au texte et à son contenu. Nous n'avons aucun besoin de revoir ce que c'est la boxe. On sait ce que c'est la boxe. J'ai cherché à utiliser, pour revenir à votre question avant, j'ai cherché justement à extraire des gestes, en fait, de la boxe, comme par exemple le fait de faire un point, enfin le point en tant que geste, et voir comment mon propre corps le porte, qu'est-ce que ça signifie, comment ça s'imprime dans l'espace, quel est le lien de ce geste-là avec d'autres gestes qui viennent d'autres univers, d'autres techniques, avec une autre histoire.
Lenio Caclea s'analyse. Elle a commencé en novembre 2013, après la mort de sa mère. Aujourd'hui, elle pratique le lundi à 8h30, le mercredi à 18h15 et le vendredi à 15h15. Elle a besoin de son analyste et d'un divan. Elle s'allonge, prend un moment pour calmer les battements de son cœur, puis un « signale que le travail doit commencer. Elle suit alors les mouvements de sa pensée, résiste, s'énerve, se plaint, s'effondre sur le canapé ou fantasme d'ouvrir la porte et de s'échapper. Elle raconte des bouts de rêve, joue avec les coussins qui sont posés à côté d'elle, parfois fait des gestes vers le plafond. Sa pratique lui permet de faire face à son inconscient. Elle ne fait pas l'objet d'une rémunération. Pratique, l'analyse, accessoire, divan.
Lenio Caclea, on disait tout à l'heure que ce projet a commencé par votre propre interrogation. Quelles étaient vos pratiques? Comment les pratiques changeaient? Comment votre vie changeait? En changeant de territoire, en changeant de langue, peut-être en modifiant aussi votre manière de faire de la danse, il était inévitable que vous apparaissiez dans ce livre-là. Et pour quelle raison?
D'abord, parce que comme celui qui donc pratique l'intransigeance et se met toujours au même niveau que les gens, je voulais évidemment jeter au même niveau que ceux que j'ai interviewés, c'était logique et indispensable que je fasse partie de la publication parce que j'ai répondu aux mêmes questions que j'ai posées. Le formulaire pose 20 questions très simples sur ce qu'on fait tous les jours. Le formulaire est un outil d'introspection et il est proposé comme ça aux habitantes et aux habitants. Je l'ai utilisé dans la même manière que je l'ai proposé. Donc j'ai répondu à ces questions-là. Je ne voulais pas apparaître dans la publication. Je choisis, comme chaque habitant et habitante, c'est le jeu, je choisissais la pratique pour laquelle il partageait, pour laquelle il parlait.
Donc c'était aussi une manière d'apparaître d'une certaine manière, c'est-à-dire... Vous avez choisi l'une des pratiques.
Tout à fait. Évidemment, une de pratiques, et je ne voulais pas apparaître avec ni avec la pratique ni avec une pratique trop près du terrain, donc celle de porter le projet, ni avec une pratique trop évidente qui est la chorégraphique ou la chorégraphie ou la danse. Donc je voulais répondre avec quelque chose justement avec une pratique qui est invisible, dont les gens que les gens ne connaissent pas. Une pratique plutôt intime, et donc je choisis celle-là car c'est une pratique que j'ai depuis quelques temps et qu'elle fait, elle a une place dans ma vie.
Vous êtes en train de travailler sur la pièce, de terminer de travailler sur la pièce avant son ouverture au public. Qu'est-ce que ça fait d'être traversé par toutes ces pratiques que vous avez, alors pas toutes évidemment, mais les pratiques que vous avez choisies, de les faire entrer dans votre corps?
Je ne mets pas en scène les pratiques comme elles sont expliquées. Enfin, en fait, le travail chorégraphique, il est assez complexe. J'utilise plusieurs opérations. Donc, il y a des portraits des pratiques que j'ai vraiment utilisées comme des partitions. Donc, je mets en scène exactement ce qui est décrit. Et d'autres pour lesquels je traduis ce qui est décrit. Donc, c'est vraiment un travail chorégraphique proprement parlé.
Et qu'est-ce que ça fait à votre corps? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Puisqu'on a dit tout à l'heure que les gestes...
Ce qui est important pour moi, c'était justement n'est pas comme le moyen pour décrire ces pratiques-là être des mots, les mots, et donc et cela a donné forme au livre. Je voulais justement n'est pas exclure, enfin je voulais inclure le corps, mon corps, celui dans les projets. Ce sont des tentatives de transmission, portraits choisis. Ce sont des tentatives de mise en corps de ce qui est décrit de manière poétique, de manière poétique ou littérale. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça me transforme, je pense.
Un petit mot juste pour terminer sur le film et le portrait de Marie Zemel, qui a un statut particulier, puisque c'est un portrait vidéo, alors que les autres, pas du tout. Vous nous en dites quelques mots?
La rencontre avec Marie Zemel s'est faite au cours du terrain. Elle a été très intéressée par les projets et on a passé pas mal de temps ensemble. On s'est promené dans la ville ensemble. Elle m'a fait rencontrer des gens. Elle a même interviewé certaines personnes à ma place. Ce qu'on découvre dans ce film là. C'est un autre point de vue sur sa propre pratique, vivre le vertige sans basculer dans les vides. Mais c'est vraiment autre chose que ce qu'elle décrit dans les textes. Donc, au cours de la répétition pour portrait choisi, alors que j'avais choisi son portrait et j'étais en train de justement répéter avec son portrait en tant que partition, je me suis dit qu'une rencontre avec elle dans les studios pourrait éventuellement faciliter cette incorporation. Du coup, je l'ai invité, je lui ai très simplement demandé d'utiliser ma caméra pour créer une archive pour mes répétitions. On a passé une heure dans le studio où je la suis, en fait, alors qu'elle navigue dans l'espace et elle parle très librement de son rapport à son propre corps. Et en regardant la vidéo après, alors qu'elle n'était pas censée devenir un film, je me suis dit que cela nous permet justement de poser encore d'autres questions sur la pratique, poser des questions différemment que les questions que les livres ou le portrait choisi posent. Et je pensais que c'était juste d'exposer aussi ce film de 16 minutes.
Alors, on pourra choisir de voir le film avant de feuilleter le livre, avant de voir la pièce lors de l'ouverture du 7 au 10 mars au laboratoire d'Aubervilliers. Le livre, en tout cas, il sort le 7 mars. Encyclopédie pratique, portrait d'Aubervilliers, Léno Caclea en collaboration avec Lou Forstraire et aux éditions du laboratoire d'Aubervilliers. Et donc, à la fois la pièce dansée et la vidéo seront visibles à ce moment-là. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à FDR pour votre présence silencieuse.
Ce que je veux dire, ouais, non, c'est clair, je sais pas. Ça va sans le dire. Pourquoi ça irait pas? Ça va comme un expire qui ne s'arrêterait pas. Comme quand rien ne
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire? Vous riez parfois, rassurez-moi.
Si, si. Évidemment, qu'est-ce que ça me fait rire? Comment la vie est ridicule parfois. Enfin, même très souvent.
Par les temps qui courent, où se cacher?
Dans les toilettes.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus peur?
Les auteurs.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec la réalisatrice Norita Vive et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son, c'était Alain Joubert ce soir, à la réalisation Lise-Marie Barré, Corinne Amar, Jeanne Alléos, Romain Debec-de-Lièvre m'aident à préparer cette émission. C'est notre pratique. Quant à moi, je réponds @MarieRichaud sur Twitter. It was really, really great. I could make it better. How will it go on?